S'il y en a qui ont vu le film Le Gladiateur, avec Mr. Crow, je pense, qui a fait le film. T'as César et t'as son garçon et t'as sa fille. Et sa fille, dans le film, la fille de César, a un fils qui s'appelle Lucius. Et à un moment donné, elle dit dans l'histoire, dans le film, que c'est un, on pourrait dire en québécois, c'est un enfer de savoir, d'avoir un enfant qui est destiné à hériter du trône parce qu'il est toujours en danger à cause de cela. Il est toujours en danger parce qu'il est destiné à régner sur l'Empire romain. Et que les personnes qui veulent prendre le pouvoir, la première personne qui vont vouloir se débarrasser, c'est Lucius. Et dans le film, c'est ce qui arrive. Pendant que son frère, on menace son trône, la première chose qu'il fait, c'est de menacer Lucius de mort si les autres ne font pas ce que lui veut qu'il fasse. Ça a un but, pourquoi je vous dis ça. Ce n'est pas parce que je veux vous garder le film Gladiateur. Jésus étant... Matthieu voulait présenter Jésus comme étant le futur roi, le Messie. Et il va nous présenter ce matin que, de la même façon que Lucius était en danger de mort parce qu'il était le futur roi, que Jésus, de la même manière, à cause qu'il va naître, et sa destinée, c'est d'être le roi d'Israël, lui-ci, il va vivre des choses spéciales dans son enfance. Il va faire ressortir que, vu que Jésus est vraiment le roi, le Messie, il devrait se passer de quoi pendant son enfance qui va démontrer cela. Et j'ai intitulé mon sermon « Une enfance royale ». L'enfance d'un enfant destiné à être roi. Et Jésus, à cause de cela, va vivre des choses, va y arriver des choses, qui démontrent que ces choses-là n'arrivent pas à un commun des mortels. Ça n'arrive pas à un enfant normal. Ça n'arrive pas à un enfant qui est juste un enfant de quelqu'un qui est là dans la société. Si tu avais un enfant, toi, qui est destiné à devenir le roi du Canada ou le roi d'un pays, tu verrais que ton enfant recevrait une éducation spéciale, les gens le traiteraient d'une façon spéciale, il y arriverait toutes sortes de choses spéciales. Vous ne pouvez pas le savoir, parce que vous n'avez pas eu, moi non plus. Mais des fois, quand on étudie l'histoire, on voit que certains enfants ont subi toutes sortes de difficultés parce qu'ils étaient des enfants royaux. On a un petit peu entendu parler de la princesse Diana, hein? On a un petit peu entendu parler à travers les médias de qu'est-ce qui est arrivé, quelle sorte de vie qu'elle faisait. Pourquoi vous avez entendu parler d'elle? C'est une fille de roi. C'est une princesse. Et si ça n'avait pas été une princesse, vous la connaîtriez pas, probablement. Moi non plus. Et Jésus va vivre des choses. Parce que dans la coutume des monarchies, quand il y avait des monarchies ou qu'il y avait des rois, ceux qui étaient conquérants, quand quelqu'un faisait la guerre et qu'on était les conquérants d'un certain pays, la première chose que tu faisais, c'était de t'occuper de la famille royale. Et on allait au palais, on allait chercher ces gens-là, si on pouvait les trouver, parce qu'habituellement ils fuyaient avant. Si on les trouvait, ils passaient tous la tête sur la bûche de bois. Tout le monde mourait. C'était la première chose qu'on faisait. On éliminait la descendance royale. À chaque fois. C'est ce qu'on faisait. Parce qu'il n'y a pas personne qui pouvait revendiquer la royauté. Il y a une partie dans l'histoire d'Israël quand Dieu a eu promis à David que de ses descendants naîtrait un roi. Si vous étudiez l'Ancien Testament l'histoire de la famille de David, il y a un moment donné dans l'histoire qu'il reste seulement un enfant pour la lignée royale. et on le cache dans le temple parce qu'il est en danger de mort. Il va rester 7 ans caché dans le temple pour que personne ne touche, personne ne l'approche, personne ne le tue. S'il meurt, la promesse faite à David ne peut pas se réaliser. Et vous, c'est ce que je voulais vous parler. Quand on est de descendance royale et qu'on est destiné à prendre la royauté d'un pays, on n'a pas une enfance comme tout le monde. On n'a pas une enfance comme tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant, que Matthieu va faire ressortir ça dans l'enfance de Jésus. Regardez ce qui est arrivé à cet enfant-là et la façon que sa jeunesse s'est passée. Et la jeunesse démontre qu'il est un roi, quelqu'un qui devait régner. Et là, il va être pas n'importe quel roi, mais le roi promis dans l'Ancien Testament. Le roi messianique, parce que c'est encore plus que juste un roi ordinaire. Jésus a eu une enfance qui a accompli les prophéties royales ou les prophéties messianiques. On va regarder ça ensemble dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. » Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Si vous avez regardé pendant le temps des fêtes le film « La nativité de Jésus », on voit encore les mages qui sont là. On les présente comme 3 mages, des blancs, puis toujours un noir, hein, toujours un noir dans la gang, puis c'est les rois mages, 3 petits vieux, qui se t'en vont, qui étoilent. C'est pas tellement exact, ça, hein, c'est pas biblique comme tel de penser ça. C'est pas anti-biblique non plus. Mais on peut pas monter dans les Écritures, cela. Mais une chose qu'il faut pas ressortir autant, c'est pourquoi est-ce que les mages sont là? Pourquoi est-ce qu'ils viennent là? Et je crois que ici, Luc va faire ressortir la. Parce qu'il est le seul. Hein? Jean n'en parle pas, Luc en parle, Marc n'en parle pas, Matthieu, Marc, Luc n'en parle pas, Jean n'en parle pas. Mais Matthieu, lui, parle de ces mages-là. Je suis pas certain que les autres savaient aussi que les mages étaient venus. Ils n'en ont pas parlé, parce qu'ils n'avaient pas le même but. Pourquoi il en parle ici? Je crois que la seule raison pourquoi il amène les mages là, c'est pas pour parler des mages. Le but, c'est de démontrer que Jésus est né à Bethléem. Parce que la prophétie concernant le roi, le Messie qui devait venir, le Messie devait naître à Bethléem. Donc, si Jésus ne serait pas né à Bethléem, il n'aurait pas pu être le roi. Mais qui devait venir. Parce qu'on va voir, comme on a lu ensemble, que les Écritures disaient qu'il va naître un roi à Bethléem qui ne va pas être Israël. Donc l'image va servir à démontrer cela. Ces mages-là étaient qui? C'était des hommes qui vivaient en Orient, c'est-à-dire à l'est d'Israël. Et quel était leur rôle? Souvent, on les voit comme des astrologues. Oui, ça faisait partie de leur métier, de leur travail. Comme vous allez voir Daniel dans l'Ancien Testament, Daniel est aussi le chef des mages. Et Daniel va aussi faire un métier de devin. Et vous savez, quand ses frères sont allés, ils ont parti avec les poches de grains, ils avaient caché sa coupe de divination à l'intérieur d'une poche. Daniel avait une coupe avec laquelle il faisait de la divination. Daniel. C'est Daniel. C'est Joseph, excusez. Joseph, excuse-moi. Daniel était le chef des mages. Et Daniel a travaillé en étant celui qui travaillait comme... Enfin, c'était pas juste des astrologues. Oui, il étudiait les astres, mais c'était pas juste des astrologues. Il faut faire attention. Astrologue ne signifie pas toujours horoscope. Hein? C'était des gens qui étudiaient l'astrologie. Et c'était des gens très puissants. C'est ça. Ils étudiaient ça, puis ils ont vu un jour un astre, une étoile spéciale qui était là. Et ces gens-là étaient des gens qui étaient à la cour du roi. Parce que quand Daniel était là, quand le roi a eu ses songes, ses rêves, quand ils n'ont pas été capables d'interpréter ses rêves, qu'est-ce qu'il dit? On va tuer ce monde-là. Et c'est Daniel qui est venu à leur secours pour les sauver. Parce que c'était des gens très puissants qui étaient à la cour du roi. Et c'est ça qui va troubler tellement Hérode. Qu'est-ce que ces hommes si importants viennent faire ici à Jérusalem? C'était pas trois petits vieux horoscopes qui font d'horoscopes dans une fin de fond d'une ville que personne ne connaît, qui vont énerver Hérode. Hein? Parce que c'est des gens importants. Ils ont vu un astre. Mais qu'est-ce qui leur a dit que cet astre-là avait une signification spéciale? Bon, il y a toute façon de voir. Personnellement, je crois qu'en partie, ces mages-là attendaient la venue du Messie ou du roi parce que Daniel en avait parlé. Daniel était le chef des mages. Je crois qu'ils ont influencé ces gens-là dans une direction. C'est pas marqué comme ça dans la Bible, mais c'est ce que je pense. Mais peu importe. Quand ils ont vu l'étoile, ils ont su que c'était l'étoile qui annonçait que le roi qui devait régner est arrivé. Il était là. Et donc, ils sont partis de l'Orient, au nom de Babylone, en Orient. Ils sont allés. Moi, j'ai appris quand j'étais jeune qu'ils suivaient l'étoile. Mais la Bible ne dit pas qu'ils suivaient l'étoile. Il ne dit pas qu'ils suivaient l'étoile. Ils ont vu l'étoile là-bas. La preuve qu'ils ne suivaient pas l'étoile, c'est quoi, dans notre texte? Ils s'en vont à Jérusalem, puis ils cherchent. S'ils avaient suivi l'étoile, tout le temps, l'étoile s'en allait à Bethléem, s'en allait à Bethléem direct. Ça n'a pas resté, ils n'auraient pas arrêté à Jérusalem pour demander où est-ce qu'il est le roi. L'étoile ne les aurait pas emmenés là. Puis on voit dans le texte que, quand ils sortent de chez le roi, ils revoient l'étoile. Ils disent, ah! L'étoile, elle, là, ça va. Faisons attention avec le mot étoile, parce qu'une étoile, c'est pas mal loin pour indiquer une maison spéciale. Il n'y a pas d'étoiles qui peuvent faire ça. À moins que vous mettez un rayon de lumière qui descend, là, comme on voit dans les films, là. C'est pas évident. Le mot qui est là dans l'original, c'est un corps céleste. C'est pas évident, c'est quoi? C'est pas évident, c'est quoi? C'est un vrai étoile qui a baissé un peu, puis s'est tenu proche de la planète pour nous montrer ce qu'était Jésus. Vous savez, c'est quoi une étoile? Hein? Une étoile, c'est quoi? C'est un soleil. Les étoiles, c'est des soleils, puis la Terre ne sera pas chauffée. Là. On ne peut pas scientifiquement dire ça, puis dire, ah, ben là, c'est peut-être un miracle. Oui, c'est peut-être un miracle. Mais scientifiquement, humainement parlant, c'est impossible qu'une étoile vienne assez proche pour montrer une maison dans une ville. C'est peut-être, à ma compréhension, à moi, peut-être plus un astre, une apparition de quelque chose de céleste, un astre qui était en dehors de ça et qui était capable de faire le travail que Dieu voulait qu'elle fasse. Emmener les mages à Bethléem, finalement. Mais ils sont allés. Si vous aviez vu une étoile à Babylone, et vous dites, le roi qu'on attendait est né, et c'était le roi d'Israël, vous allez, logiquement, humainement parlant, aller où? Au palais royal, à la ville royale. Si vous connaissez un petit peu le Canada, et que vous cherchez le premier ministre du Canada, vous n'en allez pas à Québec, vous en allez où? À Ottawa. C'est là qu'il est, il reste là. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher, vous présumez qu'il reste à Ottawa. Et quand vous cherchez le roi qui doit régner sur Israël, vous en allez dans la ville royale qui est Jérusalem. Et vous allez au palais royal et vous demandez où est le roi. C'est normal, c'est humain comme ça. Mais de là, ils vont être redirigés. Là, ils vont être redirigés. Premièrement, par quoi? Les Écritures. Quand ils arrivent, ils demandent à Hérode, où est-ce qu'il est le roi qui est né? On a vu son étoile apparaître. Qu'est-ce qu'Hérode ferait? Il appelle des rabbins, il appelle des gens qui connaissent les Écritures, puis ils disent, où est-ce que c'est prophétisé qu'il va naître le Messie, le roi? Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils prennent les Écritures, ils sortent des Écritures, puis ils disent, bon, mais il est écrit dans la Bible que c'est à Bethléem. Ah! À Bethléem! OK! On y va! Ils prennent le chameau, s'ils sont à chameau, puis ils partent! Ils n'ont pas besoin d'étoiles pour les amener à Bethléem, c'est à 12 km à peu près. Mais pourtant, l'étoile apparaît là, à ce moment-là, et l'étoile les va les conduire, parce que Jérusalem, c'est en tout de même une petite ville. Comment trouver un bébé à Jérusalem? Là, l'étoile va devenir l'outil par lequel ils vont les utiliser pour les amener à la place où ce que Jésus est. Parce qu'il est né à Bethléem, Jésus. La ville de David. La ville où est-ce que Jésus, ou le Messie devait naître. Et qu'est-ce qu'ils font, ces mages-là, après avoir été à Jérusalem, vu la place que Jésus est, et remarquez bien, Jésus est où? Il le trouve dans à quelle place qu'il le trouve? Dans une maison. Jésus est né dans une étable. Donc, il avait changé de place. Jésus n'a probablement pas un enfant né quand les mages viennent. Les mages sont probablement pas venus à la crèche. Ils sont venus à une maison. Et on se pose la question souvent, est-ce quand ils ont vu l'étoile, l'ont-ils vu l'étoile le jour où Jésus est né? C'est l'enfant, Jésus est né. Et là, ça lui a pris 2 ans à s'en venir à Jérusalem, les autres. Mais on va voir plus loin que quand Hérode s'est acquis, il a posé des questions, quand est-ce tout ça, et quand il fait tuer les enfants, il fait tuer les enfants en bas de 2 ans. Donc, on présume, si les mages avaient dit que l'enfant était nouveau-né, il n'aurait pas tué les enfants jusqu'à 2 ans. On présume que Jésus, il s'est peut-être passé 1 an, 1 an et demi, 2 ans avant que les mages arrivent. À moins qu'on dise qu'ils ont vu l'étoile avant la naissance de Jésus. Si on dit qu'ils l'ont vu dans la crèche quand il est né, il faut qu'il soit parti à chameau de l'Orient, de Babylone, s'en venir à pied, à 12 chameaux, jusqu'à Jérusalem, puis arriver pour la journée de la naissance, ou la semaine de la naissance. Mais ça, il fallait qu'il ait vu l'étoile avant que Jésus soit né. Mais s'ils l'ont vu l'étoile quand Jésus est né, il faut leur donner le temps de s'en venir. Et c'est pour ça, probablement, qu'ils l'ont trouvé dans une maison, parce que vous êtes assez intelligent pour penser qu'ils n'ont pas resté dans l'étable pendant des années. Ils ont été là parce qu'il n'y avait pas d'autre place, mais aussitôt que la place était libérée, ils ont sorti de là, puis ils ont été restés dans une maison comme tout le monde. Et ils seraient rencontrés là. Mais ça ne change rien, là. Tu crois qu'ils étaient dans une étable? Correct. Tu crois qu'ils étaient dans une crèche? Correct. Tu crois qu'ils étaient dans une caverne? Correct. L'important, c'est que faut que tu mettes cette caverne-là, cette crèche-là, cette étable-là à Bethléem. Si c'est à Bethléem, tu es correct. L'important, c'est qu'il est né à Bethléem, dans la ville où le Messie devait naître, parce que la prophétie disait qu'il va naître à Bethléem, ce Messie, ce roi-là. Et Jésus est né à Bethléem. Les mages, ce qu'ils font, eux autres croient que le Messie est né, eux autres croient que c'est à Bethléem, et eux autres, ils voient l'enfant, ils sont convaincus que c'est le roi. Pourquoi? Il n'y avait pas une couronne sur la tête, là, dans la maison, là. Il n'y avait pas ça, là. J'ai quasiment dit dans la crèche parce que j'ai été élevé avec la crèche. Toute mon existence, c'était l'image, j'étais à la crèche. Comment ça que tu as reconnu que c'était lui? Juste à cause de l'étoile. Tu as arrêté au-dessus de la maison, puis c'est ici, là. C'est ici. C'est comme ça qu'ils ont su que c'était lui, là, parce qu'il n'y avait pas ça écrit dans la face. Et là, croyant que l'étoile, c'est un avertissement divin, ils vont offrir à cet enfant-là des présents pour démontrer qu'ils reconnaissent en lui qu'il est un roi. Oui?
Je sais, je pensais qu'il y avait eu des anges qui avaient dit que le Messie va
venir. Pas hommage. Les anges vont dire au berger, mais pas hommage. L'image, c'est juste l'apparition de cet ange, de cette... Tu m'as dit en erreur, là. C'est juste cette étoile-là qui les a apparues. Ils vont avoir tout à l'heure une vision après, qui va leur dire, retournez pas, là. Ils vont leur dire, retourne pas à Jérusalem, parce que le roi veut lui faire du mal à cet enfant-là, donc on ne va pas lui dire où ce qu'il est. Mais certains livres, ils appellent les mages les couronneurs de rois. C'était les autres, leur rôle à Babylone, quand un homme était mis en place pour être le roi, hein, c'est eux autres qui organisaient, c'est eux autres qui faisaient le couronnement du roi. Si c'est vrai, mais ici c'est une belle démonstration qu'eux autres reconnaissent cet enfant-là comme étant le roi qui va venir. Oui? Parce que je m'ai calculé, c'est des milliers de kilomètres certains, parce qu'ils ne pouvaient pas traverser en ligne directe, parce qu'en ligne directe, entre Babylone et Jérusalem, tu as le désert de Sahara, et ils ne passaient pas par là. Ils devaient monter, si vous regardez dans vos Bibles, en arrière, vous avez des cartes, regardez le chemin qu'Abraham a fait. Ils ont probablement fait le même chemin qu'Abraham. Parce que la plupart du temps, ils voyageaient par les voies que les gens passaient vraiment, les chemins déjà, puis souvent ça côtoyait des cours d'eau. Fait qu'ils ont monté probablement dans le nord, et jusqu'à Charan, comme Abraham a fait, et ensuite ils ont descendu jusqu'à Jérusalem. C'était la route, ça, que les gens empruntaient. Parce qu'ils ne passaient pas à travers le désert, c'était trop difficile, personne ne voyageait comme ça. Fait qu'il fallait que tu sois capable de manger puis de vivre, tu ne peux pas t'emmener là, en plein soleil, là, en chaleur, de la nourriture pour 6 mois, 1 an, 2 ans. Là. Donc tu voyageais, parmi les routes les routes commerciales que tout le monde utilisait, généralement parlant. Comme Abraham a fait le chemin comme ça, puis il a monté dans le nord, puis il a descendu en bas. Absolument, c'est ce qu'on pense qu'ils ont dû faire. Mais à d'autres chameaux, on ne sait pas combien ils pouvaient faire de kilomètres par jour. S'ils faisaient 50 kilomètres par jour, bien, diviser 50 kilomètres par jour pendant 1000 kilomètres, ça fait 200 jours. S'ils voyageaient tous les jours 50 km. Ça faisait 200 jours, c'est presque un an, dans ce sens-là. Donc, c'est dépendamment de ce qu'on voit les choses. Donc, les mages, comme j'ai dit tout à l'heure, du verset 7 au verset 12, Hérode veut savoir, mais les autres, ils voient, au verset 12, c'est marqué, « Puis divinement averti en songe ». Donc, là, ils ont eu un avertissement en songe de la part de Dieu de ne pas retourner auprès d'Hérode. Donc, ils vont écouter cet avertissement-là divin. Ils ne vont pas aller dire à Hérode qu'ils ont trouvé l'enfant. Parce qu'ils ont pensé que peut-être, ils ont été convaincus par la vision qu'ils ont eue, l'avertissement que Hérode voulait faire du mal à l'enfant. Donc, ils veulent le tuer. Puis c'était logique dans leur tête, pas dur à croire, parce que si un roi, puis un autre roi qui est né, le roi qui est en place va vouloir tuer le roi qui est là pour garder sa place. C'est normal. Donc, mais ce que vous remarquez surtout ici, c'est que David a fait ressortir, premièrement, que l'enfant était né dans une famille royale, parce qu'il a nommé les descendants, hein, jusqu'à Joseph, qui était descendant de David. Il est né dans une famille qui était de sang royal, et maintenant, il est né dans la ville royale qui avait été prophétisée. Il devait naître d'une femme vierge, il l'a fait. Il devait naître à Bethléem, il l'a fait. La preuve de ça, c'est que les mages sont venus, ils sont allés à Bethléem. C'est ça la preuve. Parce que les gens pourraient bien dire, « Oh, tu as dit qu'il est né à Bethléem, mais quelle preuve que tu as? » Les mages sont allés là. Les mages sont allés là. Donc, c'est ça la preuve qu'il est né à Bethléem. OK? Ensuite, on va voir une autre donnée. Jésus va accomplir la prophétie concernant la sortie d'Égypte. En tant que jeune enfant, destiné à la royauté, il va vivre une expérience que les autres enfants n'ont pas vécue au verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Une autre prophétie. Dieu avait dit, il avait fait une prophétie dans l'Ancien Testament, qu'il dit, « Je vais appeler mon fils hors d'Égypte. » Et quand vous allez dans l'Ancien Testament, le fils, là, la plupart des textes, le fils, c'est Israël qui parle, pas juste le Messie. Mais si l'auteur applique ça au Messie, « Je vais appeler mon fils hors d'Égypte. » Et il l'applique à Jésus. Donc, comme tout enfant destiné à la royauté, il doit fuir devant les rois en place pour sauver sa vie. Et ce n'est pas la première fois que si vous lisez l'histoire des monarchies, l'histoire d'Israël aussi, qui avait des monarques, beaucoup d'enfants se cachent, fuient devant les rois en place pour sauver leur peau. Ici, Jésus, à cause qu'il est destiné à la royauté, pourquoi est-ce que... Hérode avait voulu faire mourir un enfant de rien. C'est un enfant qui n'avait aucune capacité, un enfant de cultivateur, c'est un enfant de personne ordinaire. Il n'aurait pas voulu vous faire mourir. Si Hérode décide de vouloir mourir cet enfant-là, s'il va le chercher pour le tuer, c'est parce qu'il croit quelque chose qui se passe qui est réel. Là. Il croit, lui, je pense, c'est ma pensée, je crois qu'il y avait pas mal... L'image avait pas mal de crédibilité auprès de Hérode. Il a dû croire que les mages ne se sont pas déplacés pour rien. Et vu qu'ils étaient des astrologues et qu'ils étaient des gens qui faisaient ça, c'était leur métier, c'était leur travail, ils ont dû dire, si on fait ça, c'est probablement vrai. Si c'est pas vrai, je ne prends pas de chance. Mais au moins, s'ils se déplacent, c'est parce qu'ils croient que c'est vrai eux autres. Puis, c'est à Bethléem, puis c'est à Bethléem qui doit être né. Je vais faire de quoi là? Donc, lui, au moins, il a cru, s'il n'a pas cru la parole de Dieu qui disait que le Messie était pour naître à Bethléem, il a cru l'image, d'une certaine façon. Donc, ici, Jésus va fuir, ou ses parents vont fuir en Égypte, et je me suis posé la question cette semaine, quelle était l'ambiance entre l'Égypte et Israël à ce moment-là? Est-ce qu'il a risqué sa vie en y allant? Je ne sais pas. Je n'ai pas assez lu la suite du veau, je n'ai pas trouvé d'indice. Parce que moi, quand je suis allé en Israël, quand je planifiais d'aller en Israël, je planifiais aussi d'aller en Égypte en même temps que je faisais mon voyage. Et les gens qui nous aidaient à préparer nos voyages disaient, si vous voulez aller en Égypte, allez-y après Israël, pas avant. Si vous allez en Égypte avant, et vous devez rentrer à Israël après, vous allez avoir des difficultés aux douanes. Ils n'aiment pas les Égyptiens. Depuis les 10 plaies d'Égypte, ça n'a jamais été la grosse amourachage entre l'Égypte et Israël. Et si vous allez en Égypte avant, vous arrivez avec vos passeports étampés Égypte, ils vont vous donner un peu de marbre en québécois. Fait qu'ils disent, allez en Israël en premier. Parce que ça, vous en allez en Égypte. Les autres, ça vous... allez en Israël en premier, puis en Égypte, ils vont vous laisser rentrer. Ça, c'est pas grave. Je me suis demandé si c'était la même chose au temps de Jésus. Est-ce que Jésus, puis Joseph, puis Marie ont eu des problèmes? La Bible ne dit pas comme tel. Mais c'était tout un voyage aussi. Un voyage périlleux, parce que c'était un voyage à travers le désert, du Sinaï. Il devait traverser tout ce chose et se rendre là, qui donnait aussi, ça j'avais déjà calculé, 700-800 km de distance à faire. C'était loin. C'était toute une donnée, s'il était allé avec un homme, là. C'est toute une donnée pour se rendre là-bas. Donc, il fuit, mais ça va partir de sa jeunesse. Si Jésus n'avait pas été destiné à devenir le roi d'Israël, d'abord, Dieu n'aurait pas intervenu divinement auprès des mages, il ne serait pas intervenu divinement auprès de Joseph, Joseph n'aurait pas poussé son enfant en Égypte pour le sauver d'Hérode si ça n'avait pas été l'enfant destiné à la royauté. Toute son enfance, ses premières années, ses 3, 4, 5 premières années de sa vie, démontrent que cet enfant-là avait une destinée royale. Il y a eu, c'est pour ça que j'ai appelé ça, une enfance royale, comme telle. Ça, c'est une autre chose qu'il accomplit en devenant, pour démontrer qu'il était roi. Une autre chose, c'est au verset 16, la prophétie concernant Rachel de Bethléem. Verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et l'envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Voyez-vous, je crois que c'est la date qui parle, c'est la date que l'étoile est arrivée et que le Messie sera venu au monde. Donc, à cause de cette date-là qui s'est enquis auprès des mages, il présume que s'il fait tuer tous les enfants en bas de 2 ans, il va pogner le Messie dedans. Il va pogner le roi, ça. Fait que, si vous êtes comme moi, aussi méchant qu'on peut le voir méchant, il a peut-être mieux un peu plus que moi. Si on dit un ennemi, tu ne prends pas cher, on va jusqu'à 2 ans. En tout cas, on peut imaginer ce qu'on veut, que la Bible ne dit pas. Mais une chose est certaine, Hérode est assez convaincu qu'il va faire tuer peut-être des centaines d'enfants, des milliers, je ne sais pas comment. Mais il fait mourir ces gens-là. Et au verset 17, alors s'accomplit. C'est le mot que je vous ai dit qu'on verrait souvent, hein. En étudiant Matthieu, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants, elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Rama est équivalent de Bethléem. Il dit, quand, vous imaginez-vous, Saint-Jovite, hein, un soir, ou une journée où est-ce qu'ils rentrent des centaines, des milliers de soldats, on tue tous les enfants en bas de 2 ans, qu'est-ce que vous allez entendre dans la ville? Ça va être un épouvantable cri de lamentation. Mais on est obligé à s'imaginer ça, hein? Des soldats qui rentrent dans une ville, puis on tue tous les enfants en bas de 2 ans. Les morts, les enfants morts, parce que c'est un roi. Et ainsi s'accomplit la prophétie qui avait été faite par Jérémie. Ça aurait pu être peut-être des centaines, des milliers d'enfants, on ne sait pas comment qu'il y en avait. Mais il y en avait assez pour que ça bouleverse toute la ville de Rama ou de Bethléem. Mais Matthieu fait ressortir ça juste pour dire, ce Jésus-là, à cause de lui, s'est accompli la prophétie que Jérémie avait faite. Donc, si ça avait été un enfant ordinaire, ça ne s'est pas produit. Mais Hérode voit en Jésus, en ce petit enfant-là, Jésus, qui est né à Bethléem, une possibilité que le roi soit venu au monde. Donc, il ne prend pas de chance et fait mourir tous les enfants en bas de 2 ans. Au verset 19, on a une autre donnée, la prophétie concernant Nazareth. Excusez. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, puis le petit enfant et sa mère, et alla du pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignait de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, afin de demeurer dans la ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, il sera appelé Nazaréen. Combien de temps s'était passé? On ne le sait pas clairement. Combien de temps s'était passé entre... Ou combien de temps, on pourrait se poser la question, combien de temps Jésus est resté en Égypte? 1 an, 2 ans? Si vous voulez savoir, je l'ai déjà fait la recherche, je ne me souviens plus. Quand est-ce que Archélaüs a pris la place de Hérode? On a la date, là. Donc, on pourrait savoir. Si je me souviens bien, Jésus devait avoir à peu près 4 à 5 ans quand il est sorti d'Égypte. 4 à 5 ans quand il est parti d'Égypte. Et il est monté, resté en Galilée. Parce que si Joseph n'avait pas été averti en songe, il aurait probablement retourné peut-être à Bethléem. Peut-être qu'elle aurait retourné à Bethléem. Peut-être qu'elle aurait été s'installer ailleurs. Il a été dirigé par Dieu pour aller s'installer à Nazareth, ou en Galilée, à Nazareth. Parce qu'il y avait une prophétie qui avait été faite. Il sera appelé Nazaréen. Et vous vous souvenez, dans le ministère de Jésus, à plusieurs reprises, on fait ressortir. Il ne peut pas être le Messie, il ne peut pas être le roi, c'est un Nazaréen. Et il ne pouvait pas être le roi puis naître à Nazareth. Parce qu'ils ne savaient pas, eux autres, qui avaient été fait, qui étaient allés à Bethléem, qui avaient été fait un petit tour en Égypte, qui étaient remontés. Les gens ne savaient pas ça, en général. Quand Jésus avait 30 ans, vous souvenez quand Nathanaël, il dit, on a trouvé le Messie à Nazareth. On a dit, il ne peut pas naître là, le Messie à Nazareth. Voyons, il ne sort rien de bon de Nazareth. Nazareth n'était pas une ville prophétique. On l'a appelé Nazaréen. Donc, pour l'appeler Nazaréen, il fallait qu'il vive à Nazareth. Et Jésus a été dirigé par Dieu pour retourner à Nazareth, afin que s'accomplisse la prophétie faite au sujet de Jésus. Donc, vous voyez, il y avait quatre événements ici, quatre fois dans le chapitre, on dit « afin que s'accomplisse, afin que s'accomplisse, afin que s'accomplisse les prophéties de l'Ancien Testament ». Jésus a eu une enfance royale, une enfance d'un enfant qui était presque destiné à la royauté, à devenir le Messie d'Israël, le roi d'Israël. Si Jésus n'avait pas été destiné à ça, il n'aurait pas vécu ça. Mais c'est à cause qu'il était ça qu'il a vécu ces choses-là. Et Matthieu va continuer à additionner. Là, on a cinq, de fait, en deux chapitres. Cinq fois, il a dit, afin que ça accomplisse. Il va en faire sortir pas loin de 25, comme ça, dans tout son évangile. Que Jésus est vraiment le Messie d'Israël, parce qu'il a accompli les prophéties de l'Ancien Testament, qui concernaient le Messie qui devait régner sur Israël. Quand j'ai évangélisé à plusieurs reprises, on m'a dit que Jésus n'était pas le vrai roi ou le vrai Messie. C'est qu'il voulait être le Messie, puis il a fait les choses que le Messie devait faire. La plupart du temps, je leur ressors ce que je viens de sortir ce matin. Oui, il a pu faire ça à plusieurs reprises, il aurait pu faire ça, mais il n'aurait pas pu dire à Marie où est-ce qu'il voulait naître. Il y a certaines choses qui sont arrivées dans sa vie qu'il ne pouvait pas planifier. À un an et demi, deux ans, il ne pouvait pas dire à son père, « Je veux m'en aller en Égypte, là, parce que je dois accomplir les prophéties du Messie, là. » Il ne pouvait pas faire ça à deux ans, hein? C'est certain. Il ne pouvait pas dire, « Je veux naître dans la famille royale, moi, là, parce que je veux être le Messie, même si je n'ai pas le droit, je veux l'être. » Mais non, il n'a pas choisi son père, il n'a pas choisi sa mère. Donc, c'est facile à démontrer que Jésus, il aurait pu faire des choses pour faire, parce qu'il y en a eu des faux Messies qui ont fait des choses pour passer pour le Messie. Mais Jésus, il y a certaines choses que ces gens-là n'ont pas pu faire. Ils n'ont pas pu naître à Bethléem, ils n'ont pas pu peut-être naître aller en Égypte, ils n'ont peut-être pas pu faire des choses qui avaient été prédestinées pour le Messie. Il y a une chose qui me fait aussi, qui me parle dans ce chapitre-là, c'est l'étroite relation qu'il y a entre la souveraineté de Dieu, ou les prophéties faites par Dieu, et le côté humain de l'homme. On voit ici une espèce de toile d'araignée entre ce que les hommes font de plein gré, humainement parlant, mais que derrière ça, il y a une logique divine qui contrôle toute chose. Les hommes font des choix, mais même s'ils font des choix mal et péchés, ils ne sont pas capables d'arrêter Dieu d'accomplir ce qu'il lui avait planifié d'accomplir. On voit que, normalement, Joseph, humainement parlant, veut abandonner Marie parce qu'elle l'a trompé, parce qu'elle est enceinte. Non, il y a une intervention divine, mais en même temps, il va aller se faire inscrire à Bethléem, parce qu'il y a eu l'édit de César, il va descendre à Bethléem, mais en même temps, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Mais comment est-ce que ce plan, ce édit de César-là, est arrivé au bon moment pour emmener Marie au bon moment à Bethléem, au bon moment, Dieu a planifié ça à travers César. Le chef de l'Empire a dit, mais c'est maintenant que tu vas dire ça, parce que mon mari doit être à Bethléem à cette date-là pour accoucher à Bethléem. Parce que si l'édit de César s'est intervenu quelques semaines plus tard, un mois plus tard, Marie accouchait à Nazareth. Donc, Marie n'est pas consciente que Dieu est en train de diriger ses prophéties. Elle ne le sait pas, elle. « Oh, Joseph, vite, il faut s'en aller à Bethléem, je vais accoucher, puis il faut que j'accouche à Bethléem. » Mais non, elle ne pense pas comme ça. Mais elle est en train de faire humainement ce qu'elle doit faire avec son mari, aller à Bethléem pour s'inscrire, parce que c'est ce que la loi disait. Puis toutes ces interventions-là, des mages qui suivent ici, qui vont là, puis on voit toute cette interaction entre le plan de Dieu et la liberté de l'être humain. L'être humain fait des choix, bons ou mauvais, mais il y a quelque chose au-dessus de ça, plus fort, plus important, qui dirige tout ça. Moi, ça me rassure, vous savez. Ça me rassure que le monde dans lequel je vis n'est pas sous la gérance juste de l'être humain. Les rois, les Hitler de ce monde, les M. Chrétien, M. Charest, M. Harper, tous les autres, les premiers ministres de partout à travers le monde, qu'ils soient démocratiques, bon, qu'ils soient présidents, qu'ils soient monarchiques, il y a quelqu'un au-dessus de ça qui dirige ça. Sans s'en rendre compte, eux, ils sont en train d'accomplir les prophéties qui vont emmener la fin du monde, hein, que Dieu a planifié. Ils sont en train de le faire. Ils ne savent pas, ils ne pensent pas que c'est ça. Mais c'est ça qu'ils sont en train de faire. Puis là, si je fais l'entonnoir, puis je l'emmène dans ma vie, à moi. Là, il faut que je le mette personnel, si ça veut toucher un peu le cœur. Parce que les gouvernements, c'est un peu trop loin. Ça fait du bien, mais c'est un peu loin. Mais je suis, moi, François Nollet, j'ai une vie à vivre, et je suis un être pécheur, je fais du bien et du mal. Mais Dieu a un plan pour ma vie. Et quand je vois ça dans la vie de Marie, dans la vie de Joseph, dans la vie de Jésus, dans la vie d'Hérode, dans la vie des mages, je sais que Dieu dirige ma vie comme ça aussi, à moi personnellement. Je fais des choix avec la connaissance humaine que j'ai, avec les données que j'ai, le mieux que je peux, avec ce que je pense être biblique. Des fois, je m'aperçois 6 mois après que ce n'était pas vraiment biblique. Des fois, je pense que c'est ça que Dieu voulait que je fasse. Je me rends compte 6 mois après que j'ai fait un péché. C'est pas ça que Dieu voulait que je fasse. J'ai pris des mauvaises décisions. Mais ce qui me reste, c'est qu'il me console. Il me permet de voir la vie et d'encore avoir de la joie dans ma vie. C'est que je sais que Dieu est au-delà de ça, par-dessus ça. Et qu'il contrôle ça. Je ne peux pas, par mes péchés, empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Même Hérode ne peut pas empêcher, en tuant 2000 enfants, 200 enfants, 20 enfants, je ne sais pas, comment est-ce qu'il y en a tué? Il ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir son plan. Il ne peut pas. Comme moi, je ne peux pas empêcher Dieu de sauver quelqu'un qui veut sauver. Même si des fois, je ne fais pas ce que je devrais faire. Je ne peux pas empêcher Dieu d'accomplir son plan. Dieu fait toujours son plan. Puis il va faire comme il va dire des évangiles, si tu ne fais pas quelque chose, mon François, je vais faire parler les roches. J'ai des pouvoirs bien plus grands que les tiens. Ça me console parce que je sais que je suis imparfait. Et le travail que j'ai à faire, que vous avez à faire, c'est un travail de perfection. Dieu veut que je bâtisse avec lui le royaume de Dieu. Et c'est un travail de perfection, ça. Et je travaille et je vois que. Il me semble qu'on est tellement inadéquat pour faire ce que Dieu voudrait bien qu'on fasse. Une fois, je me souviens d'avoir dit à Dieu, quand j'avais mes enfants à la maison, « Seigneur, tu me demandes d'élever des enfants et d'en faire des enfants qui vont te croire en toi, qui vont t'accepter, qui vont te servir. Tu me demandes de leur annoncer la vérité, mais je me sens tellement inadéquat. Je me sens tellement incapable de faire. » Puis Dieu, à chaque fois, me répétait, « Ah, oh, tu n'es pas seul. t'es pas seul, je suis là. Et je vais les amener où est-ce que je veux les amener. Je vais les amener où est-ce que je veux les amener. Et ça nous fait du bien de savoir ça. Qu'il y en a un au-dessus de nous autres, qui lui est parfait, que lui est en train d'accomplir un plan, que lui a des gens qu'il veut sauver, que lui a une église qu'il veut bâtir, que lui va arriver à sa fin, et quand il va dire à une certaine date, c'est fini, ça va être fini et ça va être parfait. L'église doit être parfaite, tous les gens qui voulaient sauver vont être sauvés, et ça va être la perfection pour l'éternité. Je ne peux pas empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il veut faire. Et ça, ça me fait du bien de savoir ça, personnellement, parce que ça, des êtres imparfaits comme nous sommes, on fait bien plus souvent d'erreurs que de crèques. Si tu avais un beau grand jardin chez vous, et que tu m'appelles, tu dis, François, je vais engager un jardinier horticulteur, je dirais, oh non. Dans l'état où je suis présentement, ça se peut bien que je m'agane plus ton jardin que je vais l'aider. Parce que je ne suis pas adéquat pour prendre la charge d'un jardin présentement. Même avec les petites peu de connaissances que je peux avoir acquéries depuis 6 mois, ça se peut bien que tu perdes des fleurs. On n'est pas adéquat. Mais Dieu, dans sa grâce, a décidé qu'il nous utilisait et que lui, étant celui qui dirige ça, qui organise ça, il va emmener à la perfection le travail qu'il veut faire, qui est de bâtir l'Église. Donc, le Seigneur puisse nous aider à travers, c'est que, de voir que malgré toutes les faiblesses de Joseph, de Marie, les faiblesses de Hérode, les péchés, la méchanceté d'Hérode, les mages qui sont des êtres très aussi très loin de Dieu, parce qu'il n'y a rien qui nous dit que ces mages-là étaient des croyants ou des convertis. Des fois, on pense que ces mages-là étaient des idolâtres, qui avaient d'autres dieux dans leur vie. On n'a rien qui nous dit qu'ils étaient des croyants, comme on l'entend dans l'Ancien Testament. Il n'y a rien qui nous dit ça. Et je ne pense pas qu'ils voient en Jésus le Dieu fait chair. Je ne pense pas qu'ils voient ça. Mais ils savent qu'il y a un grand roi qui est né. Bon, maintenant, quelles étaient toutes leurs intentions en venant adorer ce roi-là? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais Dieu, lui, dit... Ainsi s'accomplit ce que moi je voulais accomplir. Ça, j'aime ça. Malgré toutes vos erreurs que vous faites, malgré toutes vos gaffes, je vais faire ce que j'ai à faire, moi, Dieu. Et la plus grande preuve de ça, c'est quoi? C'est la mort de Jésus à la croix, qui est le péché le plus épouvantable que l'être humain a pu faire. Dieu a sauvé le monde avec ça. On empêche Dieu de faire ce qu'il a à faire? Jamais. Jamais. Ça ne veut pas dire, là, pas grave, dans ça. Si c'est ça, péchons. Hein? Faisons des péchés à la planche, on n'empêchera pas Dieu pareil de faire ce qu'il a à faire. Ben non. Ce n'est pas l'attitude du croyant. Le croyant veut faire ce qui est bien, le mieux qu'il peut. Mais il sait très bien qu'il est imparfait. Mais il sait très bien aussi qu'il y a un Dieu au-dessus de lui, que lui est parfait. Et qu'il va remplir les trous. Ou va réparer les trous, puis va amener son plan à la perfection. Notre Père du ciel, nous te remercions de nous avoir montré encore une fois ce matin que Jésus est bien l'enfant roi. L'enfance qu'il a eue de 0, mettons, jusqu'à 5 ans, nous montre bien que cet enfant était spécial. C'est un être divin, c'est un roi, le roi des rois. Le Messie roi qui devait régner sur Israël. On te remercie de nous avoir montré, Seigneur, que ton plan s'accomplit malgré toutes les folies, toutes les méchancetés, toutes les faiblesses humaines. Ça nous console, ça nous fortifie, ça nous donne de l'espoir, ça nous rassure, ça nous pousse à l'adoration parce que tu es un Dieu omnipotent, omniscient. Seigneur, c'est ce Dieu-là que nous voulons annoncer au monde dans lequel nous vivons. C'est ce Dieu-là que nous voulons faire connaître. Nous sommes faibles. Des fois, nous avons peur. Des fois, nous sentons inadéquats. Mais nous croyons que tu peux nous utiliser pour sauver des gens. Nous croyons que tu peux nous diriger et tu peux nous conduire vers les ceux que tu veux sauver. Seigneur, fortifie-nous et on veut te dire ce matin, ensemble, tes enfants, utilise-nous, on est disponible, on veut et on sait que tu as le pouvoir de nous utiliser malgré nos faiblesses. Conduis-nous et qu'on puisse te glorifier pendant la semaine qui vient. Au nom de Jésus. Amen.